Jean 4 et les versets 27 à 42. Je vous invite à les trouver. L'évangile de Jean chapitre 4, les versets 27 à 42. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de voir de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient et disaient « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, moi, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là pendant 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Prions. Père, dans ta parole, tu nous parles d'un jour où toutes les nations se rassembleront. Des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues viendront se prosterner sur ta montagne. Et tu dis que ce jour, c'est le jour où l'orgueil humain sera abaissé et qu'en ce jour-là, toi seul seras élevé. Et c'est notre prière pour maintenant, pour que tu travailles dans nos cœurs, pour que nous nous effacions et pour que toi et ta gloire prennent toute la place et nous envoient dans cette moisson rendue possible par la croix. Amen. Alors hier, on a vu, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on a vu les 26 premiers versets de ce chapitre et on a rencontré Jésus, l'homme qui, d'après Jean, connaît et comble tous les cœurs. L'homme qui est venu dans ce monde pour étancher notre soif existentielle profonde. Comment ça ? Ben, il le fait, d'après Jean, à travers cet esprit qu'il promet, qui a pour fonction, pour vocation de nous conduire à la croix, le lieu où Jésus lui-même a eu soif afin que nous soyons abreuvés, le lieu qui deviendra, d'après Jésus, le nouveau lieu de la rencontre, le lieu de la rencontre universelle, le nouveau temple pour remplacer le temple à Jérusalem, le temple à Gérazim, pour que tous les hommes puissent être en communion avec Dieu. Ce matin, nous allons voir que l'un des effets spectaculaires de cette œuvre est tout simplement la mission. On va voir comment sa mission, ce dont il a parlé hier avec cette femme samaritaine, informe quelle incidence elle peut avoir sur la nôtre. Et j'aimerais vous suggérer, à partir de ce texte, qu'elle change deux choses. Elle change notre attitude et elle change aussi nos actions. Et en fait, c'est encore une affaire de satisfaction. Il y a de nombreuses motivations qui nous sont proposées pour la mission. La culpabilité, le devoir, l'envie de partir, de faire un petit coup de tourisme chrétien, partir aux îles, plutôt que de rester dans son open space devant un PC, c'est sympa. Et il y a toutes sortes de motivations, et parfois on n'a juste aucune motivation, je vous le dis. Mais on va voir dans ce texte que notre motivation dans la mission, en fait la motivation de Jésus dans sa mission, et la motivation pour la femme samaritaine était en fait, dans les deux cas, la satisfaction. Hier, on a vu cette eau qui donne satisfaction. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la nourriture secrète de Jésus, le secret de sa mission. Deux métaphores de la satisfaction, l'eau et la nourriture. Vous voyez, on parle d'être comblé, d'être satisfait. Et c'est là, cette satisfaction qui est la seule moteur véritable, le seul moteur sain et durable pour notre mission, tout comme pour la mission de Jésus. Et puisqu'on parle de nourriture, au risque de vous donner faim, il est 11h10, un petit mot sur la structure de ce texte, de ces versets qui sont énigmatiques et parfois mystérieux et difficiles à comprendre, souvent cités, mais assez compliqué finalement à comprendre dans le contexte. La structure de ce texte, c'est en fait un sandwich. De la nourriture, voilà, merci. Je fais ma blague pour la matinée. Un sandwich. Il y a deux bouts, et puis il y a la partie au milieu. Il y a deux bouts de pain et la viande au milieu. Ceux qui se souviennent encore des années 2000, la belle époque de ma vie d'étudiant, la série 24 heures chrono, vous vous en souvenez ? Il y avait dans cette série souvent l'écran divisé, vous vous souvenez, vous avez à droite, sur deux lieux différents, de l'action qui se déroule en même temps, mais liée par un seul même thème, deux lieux et deux lieux d'action qui sont liés par un thème qui sont quelque part en dialogue l'un avec l'autre. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Ici, en Jean, verset 4, verset 27 à 42, c'est un écran divisé littéraire. Vous savez, ce n'est pas 24 heures chrono qui a inventé ça au XXIe siècle, ça fait 2000 que Jean l'avait déjà fait. Regardez, vous avez versets 27 à 30, et puis versets 39 à 42. Les deux bouts de ce texte. Et là, nous sommes au village. Au début, on était, verset 1 à 26, on était avec Jésus au puits. Ici, aux deux bouts de ce texte, 27, 30 et 39, 42, on est au village avec la femme samaritaine. Et là, on va voir la mission mise en pratique. C'est l'atelier pratique. On va voir un exemple. On va voir ce que cette satisfaction que Jésus a promise à la femme samaritaine change pour elle dans son village. Mais en même temps, au milieu, on a la viande. Au milieu du sandwich, on a verset 31 à 38, et là, on est de nouveau au puits. On est au puits avec Jésus, avec ses disciples, et là, on va voir la théorie. On va voir le discours de Jésus à ses disciples au sujet de la mission. Et donc, ce que j'aimerais que l'on voit ce matin, assez rapidement, ce sont deux conséquences missionnaires de la satisfaction présente chez Jésus dans les versets 31 à 38. Et ensuite, cinq effets missionnaires de la satisfaction promise par Jésus à la femme samaritaine. On va voir au deux bouts l'action et au milieu l'attitude en ce qui concerne la mission et à cause de la venue de Jésus. Donc premièrement, notre attitude, deux conséquences de la satisfaction présente chez Jésus, le milieu de ce texte, les versets 38, 31 à 38. Considérez juste un instant les deux grands mouvements de ce chapitre. Vous vous souvenez pourquoi la femme samaritaine était venue au puits ? Logiquement, elle était venue au puits pour chercher de l'eau. Elle avait soif. Pendant ce temps, regardez le verset 8, on s'est pas arrêté dessus hier, mais le verset 8, pendant ce temps, les disciples étaient partis où ? Au village dont la femme était originaire. Pourquoi est-ce qu'ils étaient partis là-bas ? Parce qu'ils avaient faim. La soif et la faim, c'est une histoire de satisfaction. Mais considérez maintenant le pauvre Jésus au milieu de tout cela. Parce que alors qu'on arrive ici à la deuxième partie du texte, en fait, lui, il est plus dans le besoin que tous. Au verset 7, il a demandé à boire. Et à notre connaissance, personne n'a eu la gentillesse de lui donner une bouteille d'eau. Et puis ses disciples sont revenus du carrefour du village de la Samaritaine. Et lui, il n'a toujours pas mangé. Il a faim, il a soif. Mais regardez, c'est extraordinaire. Le grand mystère de ce texte, malgré le fait qu'il n'a ni bu ni mangé, il est plus satisfait que tous. Il n'a ni bu ni manger, mais il est rassasié, il est repu, il n'éprouve aucun besoin. Regardez, verset 31, les disciples reviennent, ils le pressaient, verset 31, en disant, « Maître, mange !» C'était l'un de leurs devoirs en tant que disciple envers leur maître, pourvoit aussi à ses besoins matériels, ses besoins physiques, c'est pour cela qu'ils étaient partis. Et donc ils arrivent, verset 27, ils le voient en train de discuter avec cette femme, et ils lui disent, « Mais arrête de papoter avec cette femme douteuse et reviens à la réalité. Mange, reprends des forces, t'en as besoin. » Eux, ils pensent à quoi ? Ils pensent, verset 27, ils pensent à la transgression. Verset 31, ils pensent à la bouffe. Et Jésus ? Jésus, il a d'autres pensées. Regardez, verset 32. « Mais il leur dit, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et au verset 33, comme avec la femme samaritaine dans la première partie du texte hier, ils ne comprennent rien. Zéro. Regardez ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce qui s'est passé, verset 33 ? Quelqu'un lui a apporté un Big Mac pendant qu'on était au village ? Quelqu'un lui aurait apporté à manger ? Et l'énigme que Jésus pose de cette manière va nous révéler la clé non seulement de ce passage, mais aussi presque de tout l'évangile. Parce que quelle est cette nourriture secrète de Jésus d'après le texte ? Regardez le verset 34. Voici la source intarissable de satisfaction profonde qui nourrit sa mission. Verset 34, ma nourriture c'est quoi ? De faire la volonté de celui qui m'a envoyé, encore le thème missionnaire, faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. N'est-ce pas l'évangile en une phrase ? L'évangile, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un homme qui, en faisant exactement le contraire de ce que tous les hommes ont fait depuis la fondation du monde, à savoir la volonté de Dieu plutôt que la sienne, a aboli les effets de notre choix désastreux de n'en faire qu'à notre tête. Quelle est la prière de Jésus à Gethsémané ? Par trois fois dans les minutes qui précédaient sa trahison et sa mort. Non pas ma volonté, mais la tienne. Quelle est notre prière la plupart du temps ? Quel est notre désir secret ? N'est-ce pas que nos envies s'accomplissent, que notre volonté soit mise en œuvre ? Qu'est-ce qui permet à Jésus de penser et de prier comme cela ? Bah c'est ici, c'est le chapitre 4, verset 34. C'est sa nourriture secrète, cette nourriture, cette source de satisfaction qui lui offre plus que l'eau et la nourriture. Mais quelle est cette œuvre ? Il dit que cette nourriture lui permet d'accomplir son œuvre, mais quelle est cette œuvre ? Vous le savez aussi bien que moi, on en a parlé hier. Quelles sont les toutes dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Jean avant de mourir ? Il s'écrit et il renvoie au verbe qui est employé ici. Il envoie à ce texte, il dit « Tout est accompli !» renvoie direct à ce chapitre 4. Tout est accompli, mission accomplie à la croix. Et au cas où on aurait raté l'allusion à ce texte entre les deux fois où Jean écrit, tout est accompli. Jésus s'écrit, comme on l'a vu hier, j'ai soif. Qu'est-ce que c'est qui permet à Jésus d'accomplir l'œuvre de son Père, d'aller au bout, de prendre sur lui notre soif, de supporter la soif ultime, de traverser le désert spirituel de la croix afin que nous soyons abreuvés? Réponse, la satisfaction profonde qu'il éprouvait à faire la volonté de son Père, la nourriture secrète qui lui offrait plus que l'eau et la nourriture. Et regardez maintenant dans le texte, à partir du verset 35, les effets de la satisfaction présente chez Jésus à ce stade de l'évangile. Sa satisfaction mène directement, il faut pas qu'on cite le verset 35 sans avoir le verset 34 avant. La satisfaction de Jésus à faire la volonté de son Père nous conduit directement à quoi ? À la mission. Regardez, deux conséquences de sa satisfaction en Dieu qui informent notre attitude envers la mission avec deux proverbes agricoles dans les versets 35 à 38. Un proverbe au verset 35 que Jésus contredit et un autre proverbe agricole au verset 37 que Jésus affirme. Que dit le premier proverbe agricole, verset 35? Regardez, ne dites-vous pas, société agricole, qui a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Bah oui, bien sûr, normal. Entre le moment où on sème et l'autre moment où on moissonne, il y a bien sûr un écart de temps. Eh bien, dit Jésus, regardez le verset 35, moi je vous dis que c'est faux. Je contredis le proverbe. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux. Regardez les champs. Les champs sont déjà blancs pour la moisson. Voici la première conséquence de la mission de Jésus, de la satisfaction qu'il avait à faire la volonté de son Père. De grandes attentes. De grandes attentes. Pas de défaitisme. Pas de misérabilisme pour les disciples et les missionnaires de Jésus. Pourquoi ? À cause de la croix. À cause de la croix de Jésus, nous pouvons avoir de grandes attentes parce qu'un homme a trouvé sa satisfaction à faire la volonté de celui qui l'a envoyé et à accomplir cette œuvre à la croix. À cause de cela, tout est désormais possible. Est-ce qu'on le croit ? Ou est-ce qu'on se dit, de toute façon, en France, c'est foutu ? Mais on le sait, hein. Les choses sont ce qu'elles sont. Mes amis, on a tort. La croix de Jésus nous conduit à avoir de grandes attentes. De grandes attentes. N'en doutons pas pour une seconde. Il y aura une moisson mondiale en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxième conséquence pour notre attitude, deuxième proverbe agricole, nous devons avoir de grandes attentes, mais nous devons aussi avoir une grande humilité. Pourquoi ? Parce que dans cette moisson, nous n'y sommes pour rien. Regardez le deuxième proverbe agricole que Jésus va confirmer au verset 37. En cela, cette parole est vraie. Deuxième proverbe, l'un sème et l'autre moissonne. En d'autres termes, à chacun son rôle dans l'histoire du salut, dans le déroulement du plan de Dieu. Et cette répartition des rôles doit nous conduire à une très grande humilité quand il s'agit de la mission. Parce que verset 38, je vous ai envoyé, dit Jésus, récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Vous voyez comment la croix, la satisfaction présente chez Jésus nous conduit à la fois a de grandes attentes, mais en même temps prévient merveilleusement qu'entre des chevilles gonflées, deux conséquences de la croix, non pas des attentes médiocres et puis un ego démesuré dès qu'il y a le moindre frémissement spirituel, dès qu'il y a le moindre succès, et j'ai peur que c'est trop facilement notre cas. Non, c'est le contraire, de grandes attentes, accompagnées d'une humilité plus grande encore, parce que nous savons que nous n'y sommes pour rien. Ça, c'est le cœur du sandwich. Ensuite, les deux bouts. Ça, c'était notre attitude. Maintenant, 5 effets de la satisfaction promise à la femme samaritaine. Et il faut dire, quand on regarde ces deux bouts de notre texte, que dans l'histoire de la mission, la stratégie déployée auprès des Samaritains ici remporte, à mon avis, le grand prix de l'improbabilité et remporte ce prix haut la main. Regardez ce qui se passe. Sur papier, je vous dis, si on présentait ce projet à la CSR des CEF, je pense qu'il prendrait même pas le temps d'en parler. Et moi, j'en prendrais pas le temps d'en parler. C'est ridicule, c'est risible. Regardez, on prend une femme dépourvue de toute crédibilité auprès de son peuple. On l'envoie vers ce peuple hérétique, sans la moindre formation. Et son action est accompagnée d'aucun signe, d'aucun miracle. Résultat des courses, chers amis, un réveil régional. Le début de la moisson mondiale de Jésus-Christ, une percée missionnaire majeure. Pourquoi ? Parce qu'une personne a goûté réellement à cette satisfaction extraordinaire que Jésus-Christ rend possible à travers la croix. Premier effet, verset 28, regardez, de nouvelles priorités. Elle est venue au puits chercher de l'H2O, elle repart avec l'eau qui donne satisfaction et vous l'avez vu, sa vie ne sera plus jamais comme avant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne sa cruche, c'est un symbole au verset 28. Elle abandonne sa cruche, le symbole de cette eau qui n'étanche pas. Et elle part. Où ça? Pas en Nouvelle-Calédonie, mais dans le village paumée dont elle est originaire. Et c'est pour elle une évidence, elle ne peut pas faire autrement à cause de sa rencontre avec Jésus. Elle a de nouvelles priorités. Et l'un des immenses privilèges que moi j'ai à Saint-Cyprien, dans l'église où je sers, c'est de voir cela arriver, de voir ces changements radicaux chez des gens qui, après avoir passé 20 ou 30 ans de leur vie à chercher à étancher leur soif dans ces citernes fissurées, découvrent un jour la satisfaction profonde qui vient de Jésus-Christ, de l'Évangile et de sa croix et de sa résurrection. Et là, vous savez quoi? Il n'y a pas besoin de leur dire grand chose. Il n'y a vraiment pas besoin de leur faire un grand cours sur ce qu'ils ont à faire ou n'a pas à faire. Leurs vies sont transformées. Et 9 fois sur 10, ils partent. Bien sûr qu'ils partent. Comment ne peuvent-ils pas parler? Dans leur famille, dans leurs entourages, dans leur lieu de travail, dans leur voisinage, ils ont de nouvelles priorités parce que plus rien n'est comme avant, parce qu'ils ont rencontré cet homme, Jésus, l'homme qui connaît et qui comble leur cœur. Et la question que moi je dois me poser et que nous devons nous poser tous ensemble, c'est est-ce que nous en sommes toujours à ce point? Est-ce que nous sommes encore et toujours à ce point d'émerveillement, de conviction profonde que cet évangile, cette croix nous offre plus que tout le reste, que cela bouleverse totalement nos priorités? Les temps pleins, je m'adresse à vous comme je m'adresse à moi-même. Est-ce que nous sommes en train de montrer l'exemple dans nos églises? Est-ce qu'on a de nouvelles priorités? Est-ce qu'on voit la priorité, l'urgence dans nos agendas? Est-ce qu'on est en train de prendre le temps d'ouvrir la Bible avec des gens qui ne connaissent rien à l'Évangile régulièrement? Est-ce que ça fait partie de nos priorités? Dans nos voisinages, dans nos entourages? Est-ce que notre prière fervente, c'est pour une église plus facile, une église plus grande, pour l'accès à une nouvelle salle? Est-ce que notre ambition s'arrête là? Ou est-ce que la satisfaction que Jésus-Christ rend possible à la croix nous conduit à d'autres priorités, à des priorités missionnaires? Deuxième effet de la satisfaction promise par Jésus après de nouvelles priorités, de l'invitation spontanée. Regardez le verset 29. Aucun commandement, aucun programme, aucune initiative organisée. Il n'y a pas besoin de bouger la vie de la Samaritaine parce que c'est elle qui se bouge toute seule. N'est-ce pas merveilleux ça? Cette satisfaction promise par Jésus la pousse, verset 29, à faire quoi? À inviter, venez voir, c'est l'écho du premier chapitre de l'évangile, vous vous en souvenez? Les premiers disciples, viens et vois. C'est l'écho de cela, aucune logistique, zéro préparation, zéro com, pas de grand discours, pas l'ombre d'une manipulation quelconque, pas de lourdeur, la simple invitation d'une passionnée. Mes amis, vous savez tous ce que c'est que de côtoyer des passionnés, des inconditionnels du PSG, du Stade Toulousain, du Thermomix, des sports de glisse, du bricolage, tout ce que vous voulez. Confessez-vous. Des passionnés, ils peuvent te parler toute la journée de leur passion. Pourquoi? Parce que justement, c'est une passion. C'est pas un job. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un devoir, mais c'est juste que c'est une expérience réelle, quotidienne, bienfaisante, qui génère un enthousiasme qui est décomplexé et contagieux. Chers amis, anciens et pasteurs, si les membres de nos assemblées ne sont pas des passionnés, si les membres de nos assemblées ne débordent pas d'enthousiasme pour le message de l'Évangile, si le seul moment de l'année où on invite est pendant la semaine organisée de campagne annuelle, est-ce que nous n'y serions pas pour quelque chose? Notre première responsabilité n'est-elle pas d'exposer, d'annoncer l'Évangile semaine après semaine, après semaine, après semaine, de manière à ce que le cœur des membres de nos églises commence petit à petit à déborder de confiance, de joie, d'enthousiasme, de la conviction intime que l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle, la plus merveilleuse nouvelle qui soit. Une nouvelle qu'on ne peut pas garder pour nous-mêmes. Deuxième effet de la satisfaction promise par Jésus-Christ, après de nouvelles priorités de l'invitation spontanée. Troisième effet, toujours au verset 29. Troisième effet de la satisfaction promise par Jésus-Christ à cette femme, un témoignage explicite à Jésus-Christ. Comme tous les meilleurs témoins, cette femme, elle est un simple panneau indicateur. Elle n'invite pas ses voisins à venir découvrir sa façon de croire, son cercle d'amis, son église, à venir à un événement. Qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle dit « Venez voir un homme, cet homme qui connaît et qui comble son cœur, cet homme qui lui a offert avec une seule parole, une simple parole, ce que tant d'autres hommes ont été incapables de lui offrir. » C'est lui qui l'a captivée et c'est de lui seul qu'elle tient à parler. Sincèrement, je vous pose la question, quel est le niveau de formation théologique de cette brave dame? Zéro. Elle n'aurait même pas eu sa première année à l'IBG. Mais elle a une acuité spirituelle dans notre savoir et nos diplômes ont tendance à nous voler. Elle a compris l'essentiel. Et l'essentiel, mes amis, c'est que le christianisme, c'est Christ. Ça, elle a compris. Le christianisme, c'est Christ. Sincèrement, est-ce que vous imaginez cette femme rentrer, retourner à son village après sa rencontre avec Jésus, parrainer un enfant du sel, mettre un autocollant de poisson sur sa voiture, offrir deux calendriers pour Noël et se reposer dans son fauteuil en se disant « Je me suis merveilleusement acquitté de mon devoir missionnaire. »
C'est impensable. Elle parle, elle invite. Inlassablement, elle est en mission et elle veut parler d'une seule chose, de cet homme qui a bouleversé le cours de son existence. Et au fond, la mission, c'est ça. Ce n'est pas de la logistique, ce n'est pas des événements, ce n'est pas des structures, même si ces choses peuvent avoir leur utilité. Mais au fond, la mission, c'est ça. C'est des gens qui ont trouvé leur satisfaction en Jésus-Christ, vraiment, profondément, quotidiennement, et qui disent à leurs voisins, « Mais venez voir cet homme. Venez le voir. Malheur à nous. Le jour où nous sommes plus fiers, et plus à l'aise pour parler de notre Église, du réseau FEF, de nos soirées Pulse, des CRF, que de parler spontanément et explicitement de l'homme qui connaît et comble le cœur de chacun. » Quatrième effet de la satisfaction promise à Jésus promise à la femme samaritaine par Jésus. Passons maintenant au deuxième bout du sandwich, versets 41 à 42. La découverte personnelle de sa parole. La découverte personnelle de sa parole. La femme samaritaine, regardez, versets 40 et 41 et 42, elle conduit ses voisins explicitement et spontanément à Jésus. Mais Jean précise, regardez bien, j'en précise que ce qui les a vraiment transformés, c'était la parole de Jésus. Verset 41, un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, au panneau indicateur, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » J'ai participé il y a quelque temps à une soirée de jeunes actifs catholiques au sujet de l'évangélisation. Et je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous entendez par évangélisation? Et en gros, la réponse était très claire, c'était servir la soupe. C'était venir en aide aux pauvres, c'était ça l'évangélisation, c'était faire du social. Et des fois, j'ai peur que même dans nos milieux évangéliques, on en est au même point. Et la question que nous devons nous poser, je pense, c'est est-ce que nous sommes encore dignes de nous appeler évangéliques? Est-ce que nous sommes évangéliques? Est-ce que nous avons encore cette conviction, pas juste en théorie, pas juste dans une confession de foi, mais dans la pratique? Est-ce que nous sommes convaincus de la suffisance, de la nécessité, de la toute-puissance, de la dynamite, de l'évangile et de la parole de Jésus-Christ? Ne nous voilons pas la face. Si la parole de Christ n'a pas été ouverte, si l'évangile n'a pas été annoncé, il n'y a pas eu d'évangile. On ne peut pas apaiser nos consciences en appelant mission et évangélisation des choses qui n'en sont pas. Notre gentillesse, nos actions sociales, nos mimes, nos autocollants, nos concerts, nos opérations de com' ne sauveront jamais personne, et c'est la Bible qui nous le dit. Elles ont certainement leur utilité. Mais il n'y a que l'évangile, mes amis, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'on est au clair dans nos têtes, théologiquement et dans les faits, par rapport à ce passage obligatoire par la personne de Jésus-Christ et par sa parole? La Bible doit être ouverte. Christ doit être entendu et rencontré. Mais quand on l'a trouvé et quand notre satisfaction est encore et de manière profonde en lui, vous savez quoi? Cette parole, elle sera ouverte. Elle sera ouverte, ce qui mènera à ce cinquième effet de la rencontre, de la satisfaction promise à la femme samaritaine par Jésus au verset 42 à une confession claire et sans réserve de la mission et de l'identité et de la divinité de Christ, le seul sauveur, nous savons. Nous l'avons entendu, nous l'avons rencontré pour nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et là, on a l'union, vous vous souvenez d'hier de la Genèse, on a l'union qui est célébrée après la rencontre au puits dans le texte. On ne va pas rentrer en détail, mais il y a des échos non seulement de la Genèse, de la typologie de la Genèse, mais aussi de l'accueil d'un souverain étranger dans l'Antiquité, ici dans ce texte. C'est l'aboutissement de la mission, ce n'est pas juste une ouverture. Ce ne sont pas de bonnes conversations, comme on dit. Ce n'est pas juste une sympathie ou une présence à des réunions ou l'adhésion associative. L'aboutissement de la mission, c'est une confession assumée, claire, publique, de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et si on se contente de moins, il me semble que nous desservons Christ et aussi les personnes qu'on cherche à atteindre. Voilà pour les deux bouts de ce sandwich. La pratique, la femme samaritaine au village. Donc pour résumer, au cœur de ce texte, l'attitude a avoir deux conséquences pour notre attitude qui découle de la satisfaction présente chez Jésus-Christ, versets 31-38. De grandes attentes et une grande humilité. La croix nous contraint à avoir de grandes attentes, de grandes ambitions, mais en même temps, de faire preuve de la plus grande humilité. Ensuite, les deux bouts. Cinq effets de la satisfaction promise par Jésus à la femme samaritaine, la pratique. Cinq effets de nouvelles priorités, de l'invitation spontanée, un témoignage explicite à Christ, la découverte personnelle de sa parole et une confession claire, publique, sans réserve, de sa mission et de son identité. Et si ça vous paraît comme beaucoup, n'oubliez pas d'où c'est parti. De la mission de Jésus, d'une personne. Une seule personne. On est 400 ici. Je ne sais pas combien de milliers on est dans nos églises. Une seule personne qui a entendu, qui a accueilli ce message, cette promesse de satisfaction extraordinaire rendue possible par l'évangile de Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Notre Père, nous avons besoin de ta grâce, besoin aussi de te demander pardon. Pardonne-nous lorsque nos pensées et nos efforts missionnaires ont été défaillants. Pardonne-nous notre défaitisme, notre orgueil. Conduis-nous à avoir de grandes attentes et une grande humilité à cause de la croix. Et donne aussi de suivre l'exemple de cette femme qui voulait parler d'une seule chose, de Jésus-Christ, et que tu as utilisé dans ta grâce pour conduire des hommes et des femmes qui l'avaient pourtant méprisé à confesser de manière miraculeuse ta divinité et ta seigneurie. C'est bien cela l'objectif, c'est bien cela que nous te supplions de faire, dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos vies, et cela pour ta gloire. Amen.